Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Toujours sur Radio Imo et Radio Territoria, suite et fin des émissions des tables rondes du Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur le stand de l'UNAM. Et pour clôturer ce beau salon, nous allons toujours parler de décarbonation de la filière aménagement, mais avec un focus sur le transport notamment. Pour cette table ronde, je suis avec François Riesec, président de l'UNAM, toujours rebonjour.
Bon, rebonjour.
Sylvain Laval, vice-président de la métropole de Grenoble, en charge des espaces publics, de la voirie et des mobilités douces, et également président du SMAG, qui est le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise.
Bonjour.
Bonjour, ravi de vous recevoir. Et Thomas Matagne, bonjour, président fondateur d'ECOV, que vous allez nous présenter, la start-up dédiée au covoiturage comme solution de transport en commun.
Bonjour.
À François, alors on va peut-être commencer avec un petit mot de votre part.
Bah écoutez, oui, c'est pour présenter l'intérêt des mobilités par rapport à la création de nouveaux quartiers. Vous savez que la consommation d'énergie primaire par les mobilités, c'est environ un tiers, dont la moitié par les véhicules particuliers. Donc nous avons là un gros effort à faire pour décarboner les transports de nos habitants. Et parmi les critères de l'aménagement, nous devons intégrer, donc on a parlé toute la journée de l'aspect multiproduit, multifonction de l'aménagement, donc avec le programme bien sûr qui compose le projet, et puis l'intégration des nouvelles fonctions, fonctions environnementales, fonctions énergétiques, et bien sûr la mobilité à l'intérieur et en relation avec le mode d'habiter de nos concitoyens. Voilà. Donc nous devons, et nous nous intéressons aux mobilités, nous allons intégrer de plus en plus dans nos projets des solutions, donc toute une diversité de mobilité pour les habitants, à travers notamment les solutions que vous apportez et que je vous laisse présenter.
Alors, il y a deux choses bien distinctes, hein, deux zones. Il y a évidemment les centres-villes et alors la zone plus complexe, c'est tout ce qui est en périphérie, donc les zones périphériques, périurbaines, semi-rurales, voire rurales, puisque forcément, elles sont beaucoup moins desservies, que, voire pas du tout, hein, pour certaines zones rurales. Alors, c'est ce dont on va parler notamment avec nos deux invités de ce jour. Alors, peut-être on va commencer avec vous, Sylvain. Il y a des pistes de réflexion, évidemment, qui sont en cours hein, pour discuter de ça. Il y a des outils. Après, ce n'est pas toujours évident, parce que c'est vrai que chaque habitant, par exemple, d'une zone rurale aimerait avoir une ligne de bus qui s'arrête devant chez lui. Pour simplifier voilà, ses trajets. Qu'est-ce qu'il en ressort justement de ces pistes de réflexion ?
Il en ressort, vous l'avez dit, qu'il y a autant de besoins que d'habitants et qu'évidemment, nous, on doit apporter des réponses globales, équilibrées, qui ne peuvent pas forcément satisfaire chaque individualité. Donc la question, c'est comment on trouve l'équilibre et quels sont les outils qui sont à notre disposition pour répondre au maximum à ce besoin. Et vous l'avez bien décrit, il y a plusieurs configurations. Vous avez de la périphérie, de zones urbaines, d'agglomération. On est un peu plus éloigné, mais on est encore dans l'agglomération. Donc on peut bénéficier d'un certain nombre de services, même s'ils sont peut-être d'un peu moindre fréquence. Et puis après, quand vous vous écartez un peu plus loin, en grande périurbanité ou en ruralité, là, la difficulté, elle est beaucoup plus importante. Donc il nous faut travailler sur des logiques de rabattement, avec des zones un peu désignées à l'avance, qui accueillent les services que nous sommes en capacité aujourd'hui de développer. Mais cela va dépendre si vous avez ou pas une ligne de train à proximité. Est-ce qu'une gare est atteignable à 10-15 minutes ou inversement, est-ce qu'il n'y a absolument rien? Est-ce que sur une grande route pas loin, il y a déjà une ligne de bus qui est de car express par exemple qui passe ou pas? Et en fait, la configuration va être différente. Donc s'il y a ces services, on fera en sorte en maximum de rabattre en direction de ces services où on peut d'ailleurs en ajouter des nouveaux, faire le lien avec du service vélo ou du covoiturage. Et dans les endroits où il n'y a effectivement pas grand-chose pour ne pas dire rien, alors là, il nous faut construire toujours le rabattement ou la liaison directe si nous arrivons à un point donné à rassembler un maximum de gens. Et c'est là où la question du covoiturage est une question tout à fait intéressante, mais je laisserai le collègue développer ce point-là. Mais c'est une logique en fait de multimodalité, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une réponse, mais il y a des réponses. Et il faut que l'ensemble des réponses, elles se combinent, elles se complètent intelligemment. Et c'est là où notre rôle de collectivité en charge des mobilités doit faire en sorte d'avoir l'ensemble de la palette à disposition et de faire en sorte que les choses se complètent bien. Donc il y a aussi des enjeux derrière d'utilisation des services, par les tarifications, par les organisations, pour que les choses soient simples et attractives.
Oui, parce que vous parlez, vous avez cité quelques transports, par exemple les cars express hein, qui vont sur l'autoroute. Le covoiturage, c'est vrai que le maillage, forcément, n'est pas le même sur tout le territoire et c'est ça qui est compliqué. Alors, on va passer à vous, Thomas. Petite présentation d'Ecov, déjà, pour commencer, la start-up que vous avez fondée.
Oui, Ecov, c'est une entreprise de 90 personnes. Notre actionnaire de référence, c'est la Caisse des dépôts et consignations. On est dédié à développer des solutions pour la mobilité en territoire périurbain et ruraux. En fait, tout sauf les zones denses qui sont très bien pourvues et pour lesquelles on sait faire des solutions. Et on part en fait de l'État. C'est-à-dire que si on reprend un peu de recul, on constate que la situation dans laquelle on est, qui est assez absurde, puisque le taux d'occupation moyen des voitures, c'est 1,3 personnes pour les trajets du quotidien. C'est-à-dire que 3 sièges sur 4 sont inutilisés. Eh bien, ça vient du fait que cette voiture a permis un aménagement du territoire et une sorte d'étalement, enfin un éloignement des aménités. Enfin, chacun doit se déplacer plus pour travailler, pour consommer, etc. Et donc, on hérite de cette situation. C'est la voiture qui a été une révolution sociale et économique extraordinaire, a induit ça. Et aujourd'hui, on hérite de ça et on se retrouve dans une situation, dans une sorte d'impasse. Donc nous, on dit, en fait, dans ces territoires, la densité est trop faible pour arriver à mettre suffisamment de transports dits lourds, même si certains ne sont pas très lourds, mais un car, si on veut avoir un car à fréquence, bah, il faut pouvoir remplir, mettre 50 personnes toutes les 10 minutes. Bah, ça, c'est difficile.
Pas le cas dans tous les... Voilà.
Mais on prend communes. L'existant, et l'existant, ce sont les voitures dans lesquelles il y a des places, des capacités de transport. C'est juste que rien n'est fait pour permettre aux gens de partager des trajets simplement.
Alors, autre question, est-ce que les gens ont envie de partager leur voiture?
Alors, la frontière de j'ai pas envie du tout versus j'ai envie, déjà, elle varie en fonction des gens, etc. Il y a peut-être une partie de la population minoritaire, 20%, qui ne veut jamais partager. Et l'immense majorité des gens a envie de partager, c'est juste que c'est extrêmement contraignant. Donc, dans le envie, c'est rendre faisable. La sobriété, ce n'est pas des choix individuels. C'est une organisation collective qui permet à chacun de bien vivre en consommant moins. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de donner la possibilité aux gens de partager. Donc concrètement, c'est ce qu'on fait. Quand on déploie une ligne de covoiturage, on fait en sorte qu'un conducteur puisse emmener un passager en passant sans avoir eu aucune contrainte. Et du point de vue du passager, c'est aller prendre un covoiturage comme on va prendre un métro. Et si on organise, ça, ce n'est pas l'individu qui peut le choisir. C'est vraiment une organisation collective qui a permis de faire un service qui rend les choses extrêmement simples. Et sous cette condition, oui, plus de 80% de nos usagers viennent de l'autosolisme. On obtient dans certains territoires plus de 20% de démotorisation, c'est-à-dire qu'une des voitures du ménage est revendue parce qu'il y a un service de qualité. C'est-à-dire qu'on a rendu désirable le fait de partager parce que c'est devenu simple et c'est rentré dans la norme.
Alors concrètement, comment vous développez ces lignes de covoiturage?
Alors d'abord, on commence toujours par des études pour comprendre ce qui se passe sur un territoire.
Un benchmark, donc.
Voilà, c'est ça. Enfin, juste comprendre les flux de voitures, c'est déjà pas simple. Et en fait, on les connaît très mal. Oui. Ensuite, on va voir les points de convergence. Et c'est là que se pose la question de l'aménagement aussi de pôles d'échange multimodaux, nouvelle génération dans ces territoires-là. Et on va voir ces points qui peuvent être reliés par la ligne de covoiturage. Là, on va les aménager avec des aménagements physiques. On va mettre des abrivageurs, des panneaux lumineux. Et tout un environnement numérique, applications, sites web, etc. Et une qualité de service. Et donc ça, on va le construire pour le compte de la collectivité locale, qui est l'autorité organisatrice de la mobilité, par exemple le SMAG à Grenoble, qui va déployer une ligne de covoiturage comme elle aurait déployé une ligne de bus, en articulation d'ailleurs avec la ligne de bus ou avec les autres modes de transport. Et donc nous, on agit pour son compte, de telle sorte qu'à la fin, ça fasse un service de mobilité comme un service conventionnel.
Alors Sylvain, justement, concernant ces lignes donc, qui ont été installées hein, à Grenoble, quels sont les retours que vous avez?
Alors, ce sont des lignes qui sont devenues structurantes, comme ça a été très bien expliqué. Ça identifie les flux principaux et ça permet de créer une ligne qui part de la périphérie à 30-40 km et qui vient vers le centre urbain où là nous avons évidemment des zones d'attractivité diverses et variées où elles peuvent même continuer à traverser et ressortir de l'autre côté du territoire. ce sont des lignes qui sont montées en puissance progressivement. Donc le démarrage a été lent pour une raison très simple, c'est que c'est tombé en plein pendant la période du Covid. Donc
forcément,
les déplacements étaient particulièrement contraints, donc on aurait eu du mal à battre des records à ce moment-là. Mais nous avons évidemment continué à mettre le service en marche.
J'imagine qu'il y a eu un plan de communication.
Oui, nous avons évidemment accompagné cela. Comme ça a été dit, il y a eu des aménagements qui ont été faits avec des arrêts, de la signalétique, etc. Et puis nous le relayons aussi sur des applications numériques. Nous avons dans le territoire un outil unique, une application des mobilités. Et évidemment, le covoiturage fait partie d'un des outils qui est présent dans cette application. Et nous constatons que c'est un service qui monte en puissance progressivement, mais régulièrement. C'est très intéressant. On est en phase vraiment exponentielle. On a battu récemment des chiffres de record. Alors, on est plutôt au début, mais n'empêche qu'on passe des paliers à chaque fois. Et que maintenant, on commence à avoir des demandes sur du covoiturage organisé dans des zones plus secondaires.
Plus reculées, donc.
La ligne maître, la ligne forte, c'est intéressant. Mais on nous demande des lignes plus fines qui sont là beaucoup plus virtuelles. Mais serait-ce le fait que savoir qu'il y a un point de départ possible sur la place de la commune X, et que tous les matins à telle heure, il y aurait peut-être que quelques personnes qui seraient intéressées pour se rendre vers le centre urbain. Donc ça nous incite aussi à travailler de manière plus finement la carte. Et puis, il y a aussi des aménagements à conforter. Nous avons dans la métropole de Grenoble une voie réservée sur l'autoroute, qui est une expérimentation nationale qui est réservée aux covoitureurs. C'est-à-dire qu'à l'heure de pointe du matin, une des trois voies de l'autoroute est réservée uniquement au covoiturage pour les laisser passer en priorité, pour qu'ils ne soient pas dans la congestion et qu'évidemment, ça les incite à utiliser ce service.
Mais alors ça, est-ce que c'est vraiment respecté dans
alors
la pratique,
aujourd'hui,
est-ce qu'on peut, vérifier que la ligne...
Pas suffisamment, parce qu'on est au début, que c'est comme tout, il faut que les gens s'habituent et que tant qu'il n'y a pas de délimitation stricte, les gens essayent de passer s'ils voient que ça roule mieux, mais nous sommes en train avec l'État de monter un dispositif de plus ferme pour faire en sorte que seuls les vrais utilisateurs utilisent cette voie, et nous allons dans les mois qui viennent avoir une expérimentation à la matière qui devrait normalement porter ses fruits. En tout cas, c'est prometteur et il faut le développer sur ces grands axes d'entrée de territoire, parce qu'on faisait allusion aux lignes de car express qui ont parfois des voies réservées, mais en avoir aussi pour les covoitureurs, c'est quelque chose de très important, puisque pour toutes ces personnes qui viennent des périphéries et qui sont aujourd'hui l'objet des congestions, ce sont d'une certaine manière involontairement eux qui en sont les premiers responsables. On voit qu'avec ce type d'aménagement, on lutte contre ce problème-là. Il y a moins de voitures, ça roule mieux, on perd moins de temps et c'est meilleur pour la qualité de l'air.
Alors ça, ce projet, c'est pour encourager les gens à covoiturer davantage, parce que est-ce que la part de voitures de covoiturage est suffisante par rapport à la part d'autres voitures pour fluidifier le trafic avec cette voie-là? Parce que si c'est pour créer des bouchons et qu'il y ait une voie, enfin, vous voyez l'état des rues à Paris avec notre très chère maire et ses vélos, c'est pas non plus...
Alors, d'abord, chaque territoire est différent, donc on ne peut pas généraliser le volume de gens qu'il y a dans l'agglomération parisienne et les conséquences que ça, c'est effectivement un sujet. On m'interrogeait récemment sur les trottinettes, on ne peut pas comparer une très grande ville avec une ville de taille moindre. En revanche, c'est évident que si on veut que ça fonctionne, c'est ce que vous dites, ce n'est pas pour ajouter de la congestion à la congestion.
Oui, parce que si c'est pour qu'il y ait donc encore plus d'émissions avec des bouchons, c'est
pour
pas
ça
très...
qu'il faut qu'il y ait des changements de comportement, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des aménagements qui soient sérieux et qu'ils le permettent. Et donc, évidemment, l'objet, c'est bien qu'il y ait moins de voitures individuelles et plus de voitures partagées. Donc mécaniquement, si ça fonctionne, vous faites baisser le volume de voitures. Donc vous diminuez la congestion et donc vous créez de la fluidité. Si c'est pour qu'on rajoute ça aux gens seuls dans leur voiture, ça ne marchera pas et ce n'est évidemment pas l'objectif.
Donc il y a de la pédagogie à faire. Et alors là, j'en viens à ma prochaine question. Quels sont les profils des gens qui covoiturent? Est-ce que vous avez un peu de data là-dessus?
Alors, oui, on a pas mal de données, mais c'est difficile de donner une règle générale, puisqu'en fait, globalement, on s'adresse à la population générale. Mais de manière globale, les conducteurs sont très, très larges en termes de population. Et puis du côté des passagers, on amorce généralement les services avec des gens qui sont plutôt en situation de précarité de mobilité, qui n'ont pas trop de choix, donc c'est ceux qui prennent le plus de risques en fait, en termes de mobilité. Mais ce sont les premiers passagers qui vont amorcer. Et ensuite, on va avoir des conducteurs qui vont devenir passagers. Et ces conducteurs qui deviennent passagers, qui verbatim, ils disent « on fait le grand saut, on a lâché la voiture », ce sont des conducteurs qui le font pour diverses raisons, un peu économiques.
On a vu le prix de l'essence ces derniers mois.
Oui, effectivement, ça joue, et ça joue de plus en plus,
bien sûr.
Mais pas que. Il y a des gens, des CSP+, notamment, qui sont tout à fait en capacité d'assumer les coûts de leur voiture et qui, ponctuellement au départ, puis parfois structurellement, deviennent passagers pour des motifs collectifs, environnementaux, ou congestion, ou sociaux, etc.
Donc, en fait, c'est quoi alors, c'est leur raison, pardon, pour...
C'est tout simplement pour participer à la transition écologique. Jusqu'à présent, ils prenaient leur voiture parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais ils trouvaient ça absurde. Là, maintenant, ils peuvent, ils se disent, ok, pourquoi je ne ferais pas autrement? Et donc, la motivation environnementale, c'est quelque chose qui monte très fort au final.
Plutôt chez les jeunes, après c'est les études que nous on a eues, que les jeunes sont très très concernés.
Pas que. Non, d'accord. C'est vachement plus large que ça. Et c'est pas que les, j'ai mentionné les CSP+, mais ce ne sont pas que les CSP+. Les CSP intermédiaires aussi sont assez.
Oui, c'était concernés. Pour montrer qu'eux pouvaient se permettre de payer l'essence, mais que.
D'autres, donc, voilà. Donc on a une palette de motivation. Et en fait, ce qui compte, c'est pas tant la motivation individuelle. Enfin, il n'y a pas de règle générale. C'est juste qu'on a mis un dispositif qui permet. Dans un certain nombre de cas, parce que les gens font les bonnes origines-destination, parce qu'ils n'ont pas de contraintes, pas de détours à faire, parce que plein de raisons, ils vont pouvoir basculer. Et il y a plein de façons de les amener à basculer. Ce qui compte, c'est de créer la dynamique. Et ce qu'a fait Grenoble, c'est vraiment la première métropole qui a pensé à la fois la mise en place d'une voie réservée et de services de covoiturage associés. Et c'est ça le sujet. Si on met une voie réservée, qu'on met une contrainte qui est nécessaire, il faut aussi que les gens en face aient une solution. Oui. Vous mettez que la contrainte sans la solution, c'est pas que les gens ne veulent pas covoiturer, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. C'est trop compliqué, trop contraignant. Donc si vous mettez en face la solution, alors on a un renforcement mutuel. Évidemment, la contrainte devient plus acceptable et la solution devient plus intéressante pour les gens.
Autre point important, la question des hubs et des gares routières qui en zone périurbaine hein, qui se développent. Ce matin, on a eu une table ronde sur la phase 2 d'Action Cœur de Ville, justement, qui en a fait une priorité, hein, développer ces gares. Un petit mot là-dessus, Sylvain, du côté de Grenoble, comment ça se passe ?
Alors nous, on appelle ça des pôles d'échange multimodaux, des pôles de rabattement, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure. Et effectivement, c'est un lieu sur lequel vous allez trouver un point, vous aurez l'ensemble des services qui vont converger. Donc c'est très intéressant. Donc ça peut être des gares routières, ça peut être aussi des gares ferroviaires. Nous, dans notre territoire, le futur maillage, il sera construit autour du futur RER métropolitain, où nous avons des gares régulièrement sur toutes les entrées de territoire. Et nous pensons que ce sont les lieux appropriés, justement pour y créer des points de départ ou d'arrivée de covoiturage, des connexions avec les lignes de transport en commun existantes, du stationnement vélo sécurisé qui est relié aussi par le réseau cyclable, des lieux d'autopartage, et ce sont en fait ces nouveaux lieux qui vont être un peu dispersés dans les endroits stratégiques du territoire pour justement rabattre ceux qui arrivent de plus loin, qui auront peut-être besoin de prendre leur voiture pour quelques kilomètres ou de venir d'ailleurs en covoiturage sur ce tronçon-là, et d'y trouver l'ensemble des services. Et c'est bien ça qui est le cœur de cette multimodalité qu'on appelle des pôles d'échange multimodaux.
Un petit mot peut-être, vous voulez rebondir, allez-y. Je vous en
non, mais c'est le futur, enfin, c'est un élément absolument clé. Jamais dans des territoires périurbains et ruraux, on a pensé ces points. Or, c'est parce qu'on crée ces points qu'on va pouvoir avoir des convergences et donc des services. Et ça, ce qui semble naturel sur une voie de chemin de fer, avoir une gare, il faut le créer aussi sur le réseau routier. Donc il faut des micro-hubs, des micro-pôles d'échange multimodaux, des plus gros et des très gros. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer ce que j'appelle le système multimodal de la France périphérique. C'est comme dans les centres-villes, mais version France périphérique, pour que les gens puissent diminuer leur dépendance à la voiture individuelle.
Et donc un grand rôle des aménageurs.
Absolument.
Un petit mot pour conclure, François ?
Là, vous êtes en train de changer d'échelle, c'est-à-dire qu'il faut inscrire l'aménagement de quartier dans une pensée globale de l'agglo. Et donc, ce qui signifie que les opérateurs doivent être plus associés à une planification globale, d'une part par la prévision et surtout par l'intégration des nouvelles fonctionnalités, dont le transport, bien évidemment.
Absolument. C'est un des sujets qui est assez difficile à traiter, puisque ouais. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont les mêmes compétences, ni professionnelles, ni compétences au sens juridique du terme. Et donc, il faut qu'on arrive à dépasser cette frontière. C'est la nouvelle frontière qu'on arrive à dépasser.
Cette limitation. Et ça veut dire que, de façon rétroactive, l'ensemble des questions énergétiques, environnementales, ne sera pas résolu sans l'aménagement, c'est-à-dire sans la création de pôles d'habitat qui permettent ces mobilités et ces nouvelles économies. Ouais. Merci à vous, en tout cas.
Eh bien, merci infiniment, messieurs, pour cette dernière table ronde qui clôture le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM. En tout cas, c'était un plaisir de toutes ces tables rondes sur ce beau stand de l'UNAM.
Merci, à bientôt.
Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.